RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Inde, où la discrimination entre castes a été officiellement abolie par la constitution de 1950 et les anciens intouchables sont censés jouir des mêmes droits que les personnes de haut statut. Mais dans la réalité, ce système hiérarchique inspiré de l'hindouisme est encore très présent et engendre une profonde ségrégation qui se reflète dans le monde du travail. Les Dalits, non donnés aux ex-intouchables, sont encore cantonnés au métier sale et dégradant, et leur faible accès à l'enseignement supérieur les empêche de briser ce terrible plafond de verre économique et social. Les quotas dont ils jouissent pour accéder aux universités publiques et aux administrations ont tout de même commencé à faire émerger une élite intellectuelle. Et dans le secteur privé, les premiers chefs d'entreprise dalits servent d'inspiration et créent un modèle solidaire pour aider ceux défavorisés à sortir de la misère. Inde, les dalits restent des intouchables. Grand reportage, signé Sébastien Farcy.
C'est l'heure de la collecte de l'eau potable dans le bidonville de Kusumpur Pahari, au sud-ouest de New Delhi. Une dizaine de femmes vêtues de simples saris en coton accourent, munies de leurs bidons. Une queue se forme et le ton monte quand une résidente en accuse une autre d'essayer de prendre plus d'eau que ce qui est autorisé. Puis la dispute s'estompe et se perd finalement dans le tumulte de ce quartier populaire. Kusumpur Pahari est l'un de ces coins de pauvreté cachés derrière les quartiers huppés du sud de la capitale indienne et ses habitants reçoivent peu de visites de l'extérieur. Ce bidonville est majoritairement composé de Dalits, ces anciens intouchables qui continuent à vivre en marge de la société indienne. Jay Bhagwan habite dans une petite maison sans fenêtre de ce quartier. Cet homme de 50 ans, à l'allure humble et le regard timide derrière ses lunettes bleues, il appartient à la communauté des Valmiki, la plus basse au sein même du groupe des Dalits. Jay n'a pas terminé son école primaire et au moment de trouver un emploi, il a été poussé à faire un travail attribué aux Valmiki depuis des siècles, nettoyer les rues.
J'aurais voulu faire n'importe quel travail, excepté celui-là. Il y avait d'autres emplois disponibles, je pense. Mais pour un Valmiki non éduqué comme moi, la seule solution, c'est de faire du nettoyage. J'aurais peut-être pu m'en sortir si j'avais été à l'école plus longtemps. Mais mes parents n'ont pas pu se le permettre.
En Inde, les Valmiki sont traditionnellement éboueurs, agents de ménage ou pire, nettoyeurs d'égouts. Jay Bhagwan, lui, travaille comme balayeur depuis une vingtaine d'années pour la municipalité de New Delhi, où il a toujours gagné un salaire de misère jusqu'à son intégration récente comme fonctionnaire. Dans son service, tous ses collègues sont comme lui, des Dalits de la communauté des Valmiki. Nous sommes en plein cœur de la capitale indienne, l'une des villes les plus modernes de l'Inde d'aujourd'hui, mais les inégalités entre castes demeurent criantes. Sunita, une résidente dalit du même quartier, a régulièrement été victime de cette discrimination, et ceci même dans le milieu associatif où elle travaille.
Il y a quelques années, alors que je travaillais dans une ONG, les collègues qui étaient de caste supérieure faisaient toujours en sorte de ne pas manger avec moi. Et lors des réunions, si je leur proposais de boire de ma bouteille d'eau, ils refusaient. Il est clair qu'ils savaient que j'étais une Valmiki et cela les dérangeait. Un collègue musulman, lui, m'a dit qu'il n'avait rien contre les basses castes, à l'exception des Valmiki, avec qui il refusait de manger. Et après que je lui ai dit que j'étais Valmiki, il a cessé de me fréquenter. Sûrement que lui aussi, il pensait que ce contact le souillerait.
Le système de caste trouve ses origines dans la division traditionnelle de la société indienne en quatre groupes ou varna, suivant leur rôle dans la société, depuis les brahmanes ou prêtres jusqu'aux shudras, les ouvriers. Mais contrairement à aujourd'hui, ces identités n'étaient alors pas forcément héréditaires. Et même si cela était peu courant, un artisan pouvait changer de varna pour devenir administrateur ou guerrier. Surtout, il n'est jamais question dans les textes hindous antiques de cette classe de parias appelée les intouchables ou dalits. Il semblerait en fait que ce sont les colons moghols et surtout les Britanniques qui ont codifié toutes les sous-castes des Indiens pour mieux les contrôler et ont ainsi figé ces identités sociales et professionnelles. Et aujourd'hui encore, les Dalits, qui représentent 16% de la population indienne, n'ont par exemple pas le droit d'entrer dans un temple hindou. Beaucoup de personnes de haut statut considèrent même que remettre en cause ce système de caste reviendrait à vider l'hindouisme de son sens. En avril dernier, par exemple, 3 mariages de Dalits ont été attaqués par des membres de haute caste, car l'époux a osé monter sur un cheval lors de la cérémonie, ce qui est considéré comme un privilège des hautes castes. La constitution fondatrice de l'Inde moderne, rédigée en 1950 en grande partie par le juriste dalit Bhim Ambedkar, punit la ségrégation basée sur la caste et introduit un système de discrimination positive pour corriger ces injustices. Aujourd'hui, environ 15% des postes dans les universités publiques et les administrations sont ainsi réservés aux Dalits, mais encore faut-il que ces personnes arrivent jusqu'à l'université. Et ceci est un vrai parcours du combattant, comme le constate tous les jours Sunita. Elle a monté la fondation 4B qui offre des cours de rattrapage scolaire dans le bidonville de Kusumpur Parali.
Les écoles publiques sont surpeuplées dans ce quartier et le niveau d'enseignement est faible. Ceci alors que les enfants vivent déjà dans un environnement difficile où les parents sont pauvres et ne peuvent pas les soutenir dans leurs études. Les enseignants eux-mêmes, parfois, disent aux enfants dalits qu'ils n'ont pas leur place à l'école. Le résultat, c'est que j'ai maintenant une liste de plus de 100 enfants qui ont été exclus avant d'avoir terminé le secondaire, car ils ont redoublé 2 fois la même classe. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? L'État est responsable d'eux, mais il n'y a plus de solution. Il semble qu'il y a une conspiration menée par le pouvoir et les brahmanes pour éviter que ces enfants sortent de cette misère et pour qu'ils finissent par reproduire ce que leurs parents font. Ramasser les ordures, laver les rues des villes et les toilettes des gens.
Une histoire a récemment choqué cette communauté, c'est le suicide d'un étudiant dalit qui préparait une thèse à l'université d'Hyderabad dans le sud de l'Inde. Rohit Vermula venait d'une famille très pauvre et avait réussi à dépasser les milliers d'obstacles qui auraient dû l'empêcher d'arriver à un tel niveau d'études. C'était un combattant, mais un événement lui a été fatal, c'est quand l'université a cessé de lui verser sa bourse de 350 euros mensuels. Quelque temps après, en janvier 2016, il a été retrouvé pendu dans une chambre du campus avec une lettre d'adieu qui se conclut ainsi « Ma naissance a été mon accident mortel ». Pour Bina Palikal, directrice du mouvement national pour les droits des Dalits, ce suicide est un symbole.
Le calvaire de Rohit Vermula est loin d'être une exception, car cela fait à peine 50 ans que nous avons l'opportunité d'être éduqués. Avant, nous n'avions même pas le droit d'entrer dans une salle de classe. Nous n'avons pas beaucoup progressé économiquement, et quand nous essayons, il y a un constant effort pour nous repousser en marge de la société. Le cas de Rohit est exemplaire. Il n'a pas reçu sa bourse pendant 1 an. Or, cette bourse ne permettait pas seulement sa survie, mais celle de toute sa famille, qui est extrêmement pauvre. Ce que vivent ces Dalits est comme une course d'obstacles. Ils passent par tellement de discriminations différentes, à l'école, puis pour être admis à l'université. Et ensuite, on leur reproche de ne pas parler assez bien anglais. Et même quand ils y arrivent, on essaie de les arrêter en interrompant le versement de leur bourse. Aujourd'hui, si une personne d'une caste dominante a le même problème, sa famille aura toujours des ressources ou de la terre à vendre. Nous, nous n'avons pas cela, car nous n'avons jamais eu accès à quoi que ce soit. Donc si nous n'avons pas ces revenus, nous ne survivons pas.
Dans les campagnes indiennes, alors que les Dalits remontent lentement et difficilement l'échelle sociale et économique, les castes supérieures les répriment de manière croissante. Les violences contre les Dalits ont ainsi augmenté de 44% entre 2010 et 2014. Cela se manifeste souvent par des viols collectifs ou des incendies de quartiers entiers de Dalits dans le but d'empêcher ces anciens intouchables de remettre en cause leur infériorité supposée. Bina Palikal explique pourquoi ces violences devraient encore s'accroître.
Plus vous vous élevez économiquement, plus vous accédez à de nouveaux services. Et plus violent sera le contre-coup, car les hautes castes se sentent menacées. Les Dalits, jusqu'à présent, étaient leurs serviteurs, s'occupaient de leurs champs et vivaient des miettes qu'ils leur proposaient. Et soudainement, ces personnes s'émancipent et s'éduquent. Cela entraîne de violentes répressions. Nous sommes donc coincés entre le marteau et l'enclume.
Les deux tiers de la population indienne vivent encore à la campagne, où les personnes se connaissent depuis des générations et savent qui est Dalit. Ces derniers y sont donc souvent exclus des métiers alimentaires, maltraités par les hôpitaux et parfois battus par les policiers s'ils viennent se plaindre. Dans les villes, les identités se brouillent et les Dalits peuvent espérer être employés plus facilement. Mais la discrimination demeure, même si elle est plus subtile. Ashwini Deshpande, professeur à la Delhi School of Economics, a mené des études sur le sujet.
La caste n'est pas toujours identifiable par le nom de famille, ni par la couleur de la peau. Donc, les employeurs de sociétés privées ont des moyens très malins pour repérer la caste ainsi que l'origine d'une personne. Dans mon étude, j'ai suivi des étudiants diplômés au minimum d'un master. Ils sont donc tellement qualifiés que l'origine sociale ne devrait pas importer. Or, nous avons constaté que les employeurs leur demandent leurs origines familiales. Qu'est-ce que fait votre père, votre mère, de quel village venez-vous? Et ce sont des questions attrape-tout qui permettent également de repérer la caste.
Cette étude a ainsi démontré que dans ce groupe de diplômés, ceux de basse caste avaient beaucoup plus de mal à trouver un emploi et finissaient par être moins bien payés. Beaucoup de chercheurs de ce domaine comparent cette discrimination des Dalits à celle subie par les Noirs américains et plus récemment à celle des enfants d'immigrés musulmans en Europe. Face à ce problème, le système de quotas pour les Dalits dans les universités publiques et les administrations est efficace et constitue l'une des raisons de l'émergence d'une petite élite intellectuelle au sein de cette communauté. Dans chaque famille Dalit de classe moyenne, vous trouverez une personne qui a bénéficié de ces quotas, affirme Ashwini Deshpande. Pour éviter cette ségrégation, les Dalits peuvent également créer leur propre commerce. Mais ceci est extrêmement difficile, d'abord parce que ces anciens intouchables ont très peu de capital à investir et un réseau très limité, mais aussi car leurs origines semblent là aussi leur porter préjudice, comme le détaille la professeure Deshpande.
Nous avons comparé les revenus des commerces tenus par les hautes castes et ceux tenus par les Dalits et essayé de comprendre ce qui se passe si nous enlevons tous les avantages dont bénéficient les hautes castes, comme le capital ou l'éducation. Si le succès des commerces de hautes castes s'explique par ces facteurs, après les avoir enlevés, les revenus devraient être similaires. Or, cela n'est pas le cas, ce qui indique qu'une partie de cette différence est le résultat de discrimination. Ceci veut dire que le marché traite les commerces de Dalits différemment. Ce sont les consommateurs qui peuvent discriminer, ou les propriétaires des locaux, ou les créditeurs. Nous supposons en fait que les trois jouent un rôle. Et donc l'idée selon laquelle lancer un commerce permet d'échapper à la discrimination ne me paraît pas crédible, car si la société discrimine les populations marginalisées, elle le fera, que ces personnes soient employées ou entrepreneurs.
Regardless of whether they are in business or they are not in business, they will discriminate.
Les nouvelles technologies ouvrent toutefois de nouvelles opportunités pour ces anciens intouchables, principalement car ces commerces requièrent peu de capital et parce qu'Internet offre un précieux anonymat. Au fin fond du bidonville de Rajasthan Colony, à l'ouest de New Delhi, les rues étroites débordent d'activité. Les commerçants ambulants vendent des mangues, des concombres ou des ustensiles de cuisine. Mais le jeune Pradeep Varma, lui, a eu une autre idée. Il revend des équipements de téléphone portable sur les portails de commerce en ligne. Âgé de seulement 19 ans et à peine diplômé de secondaire, ce Dalit fait l'admiration du quartier. Il gagne environ 350 euros par mois, un salaire très élevé ici et quasiment égal à celui de son père. Pradeep explique les possibilités qu'a ouvert le commerce par Internet pour les Dalits.
Quand vous rencontrez des clients en face, vous devez avoir une très bonne connaissance du produit. Il s'agit de quelqu'un de très pointu dans le domaine, je ne vais pas forcément pouvoir lui vendre, car je ne suis pas un très bon communicant ni très à l'aise à l'oral. alors que je peux donner ces mêmes détails du produit sur le site internet. Et surtout, quand on se rencontre, cette personne va rapidement pouvoir deviner ma caste et juger qu'il ne peut pas avoir confiance en des gens de basse caste. Ce problème n'existe pas quand on fait du commerce en ligne.
Cette même ingéniosité mêlée à du talent a réussi à un autre membre de cette communauté des Dalits et lui a permis de se hisser très haut dans l'échelle sociale. NK Chandan est le chef d'une entreprise de 28 salariés au chiffre d'affaires de près de 700 000 euros. Son usine fabrique des équipements en plastique tels que des casques de chantier dans les environs de New Delhi. Cet homme Dalit, originaire d'une petite ville de l'état de l'Uttar Pradesh, obtient d'abord un diplôme d'ingénieur en photocopieuse. Quand il y est embauché, il est moins payé que ses collègues de promotion, mais se rend indispensable à travers ses astucieuses idées de réutilisation des machines. Une vingtaine d'années après, en 2012, grâce à ses économies et à un prêt d'amis, il rachète cette compagnie en difficulté et la rebaptise Chandan et Chandan. Aujourd'hui, Monsieur Chandan arbore des boutons distingués aux manchettes de sa chemise blanche immaculée et nous montre fièrement l'un des boîtiers électriques qu'il a inventé.
Nous avons amélioré la conception du boîtier. D'abord, c'est du plastique de première qualité, alors que d'autres utilisent une partie de matériaux recyclés. Puis, j'ai introduit un deuxième système d'accroche à vis pour les connexions des câbles. Ici, cela empêche tout court-circuit.
À sa manière, cet homme humble et peu bavard nous démontre ainsi que le secret de sa réussite n'est pas à chercher dans sa lignée familiale ou dans toute aide extérieure, mais dans son seul mérite. Son collègue et écrivain dalit Chandra Ban Prasad trouve les mots pour lui.
Vous pouvez comparer ce boîtier avec n'importe quel autre dans le pays, c'est le meilleur. Le plastique est tellement pur que vous pouvez vous en servir d'assiette pour manger. J'ai encouragé M. Chandan à ne faire aucun compromis sur la qualité. Je lui ai dit, si vous faites une erreur, ce ne sera pas M. Chandan qui sera jugé, mais tous les Dalits. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est comme si les Dalits devaient toujours atteindre le niveau de la médaille d'or pour obtenir une médaille d'argent.
NK Chandan mentionne sans s'apitoyer les brimades qu'il a subies tout au long de sa jeunesse de la part de ses camarades de classe qui l'insultaient à cause de sa caste ou des enseignants qui le décourageaient de continuer les études. Aujourd'hui encore, beaucoup d'industriels qui sont généralement de haute caste évitent de faire commerce avec lui. Mais M. Chandan n'en exprime pas de rancœur, il veut seulement pouvoir jouer à la même table que les autres. Et pour se faire accepter, il fait d'importantes donations aux temples hindous, alors que lui-même, en tant que Dalit, n'a même pas le droit d'y entrer. Le succès n'a toutefois pas fait oublier à NK Chandan ses origines, bien au contraire. Dans son bureau sont affichés les portraits des idoles Dalits, tels que l'idéologue Bhim Ambedkar. Il est également le président pour la région de Delhi de la Chambre Dalit de commerce et d'industrie, qui comprend 3000 membres et par laquelle il aide de plus petits entrepreneurs Dalits. Enfin et surtout, sa petite usine est un atelier du changement. Il nous y emmène avec un air fier et un sourire en coin.
Ici, regardez les deux opérateurs de la machine. Vous avez un Dalit et à ses côtés, son assistant est un brahman. Oui, vous avez bien entendu, son assistant. Ils ne sont pas juste collègues. Le Dalit est au-dessus du brahman. Ici, c'est l'industrie. Votre travail doit seulement dépendre de vos qualifications. Et moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les gens de ma caste, les Dalits, puissent travailler à de hauts postes. C'est en quelque sorte ma contribution pour faire changer les choses.
Dans sa société, 80% des employés sont Dalits. Ils sont souvent peu éduqués, mais M. Chandan les forme sur le tard pour opérer les machines et leur offre ainsi la chance que personne d'autre ne leur a donnée. En Inde, les Dalits restent des intouchables. C'était un grand reportage de Sébastien Farsi, réalisation Eva Modjinski.